Je vais commencer le partage de ce soir par un passage du Dhammapada, qui est un texte souvent utilisé dans les enseignements, que les anciens connaissent probablement. Et pour les gens qui commencent, vous allez l'entendre souvent, parce que c'est un texte qui est très important et qui reflète vraiment l'effet de notre esprit sur notre capacité à être dans le bonheur, sukha, ou la souffrance, dukkha. Tous les phénomènes mentaux sont précédés par l'esprit, gouvernés par l'esprit, créés par l'esprit. Si quelqu'un parle ou agit sur la base d'un esprit impur, dukkha le suit comme la roue de la charrue, la patte du bœuf. Tous les phénomènes mentaux sont précédés par l'esprit, gouvernés par l'esprit, créés par l'esprit. Si quelqu'un parle ou agit sur la base d'un esprit pur, sukha le suit comme une ombre qui ne le quitte jamais. Je crois que le temps qu'on passe en retraite, c'est vraiment un bon laboratoire pour explorer ça. Comme en quelques jours, on peut passer de cette expérience de dukkha, de la souffrance par moment, à l'expérience de sukha, la joie, ou la séquence inverse, la joie puis la souffrance, ou parfois on trempe un peu plus longtemps dans l'expérience de dukkha. Mais heureusement, il y a Michel qui est là avec sa mousse au chocolat pour nous aider à toucher sukha, au moins le temps de manger. Donc on peut vraiment être en contact dans cette expérience un peu de montagne russe, comme on peut passer de l'un à l'autre par la force de l'esprit. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment, en fait, pouvoir se libérer de ça? Comment peut-on entraîner l'esprit pour ne plus être dans cette alternance de sukha à dukkha et d'avoir un peu plus, disons, de sukha dans notre vie? Je crois que c'est une question qui est centrale à l'être humain et qu'on retrouve dans beaucoup de sagesse. Puis le bouddhisme, il a sa façon de répondre. Et dans un des enseignements fondamentaux du Bouddha, qui est l'enseignement des trois piliers, on peut trouver une voie pour nous guider et savoir comment, en fait, entraîner notre esprit pour un peu plus de sukha dans notre vie. Donc c'est cet enseignement que je vais partager avec vous ce soir. Et ces trois piliers, c'est dana, la générosité, sila, la conduite éthique, et puis le troisième que vous avez déjà entendu, bhavana. Bhavana, l'entraînement de l'esprit. Et c'est vraiment l'image qui est donnée de ces trois piliers. C'est comme un tabouret qui a trois pieds. En fait, si on enlève un pied, ben, on se casse la figure. Donc on a vraiment besoin des trois. Alors dana, c'est intéressant de voir que l'enseignement de la générosité, c'était souvent le premier enseignement donné par le Bouddha quand il rencontrait quelqu'un. En tout cas, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a surprise parce que je pensais qu'il enseignait comment méditer, comment réagir face aux facteurs mentaux, ou peut-être qu'il parlait des quatre nobles vérités. Mais pas du tout, en fait, il parlait de la générosité. Il y a aussi une phrase qui m'a frappée une fois que j'ai trouvé, qui vient de Bouddha et qui dit « Si vous saviez l'importance de la générosité, vous ne passerez pas un repas sans le partager. » Donc on voit à quel point, en fait, dans la pratique, la générosité prend une place qui est vraiment clé. Alors quand on pense à générosité, en général, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est le don matériel, un cadeau, de l'argent. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette générosité, c'est qu'elle peut prendre plein de formes. Par exemple, c'est du temps qu'on va accorder à quelqu'un, de l'écoute, des conseils, peut-être de l'encouragement, de l'intérêt, un sourire. On parle aussi dans les différents types de dons de la protection. Protéger la vie, protéger quelqu'un qui a peur, Et puis aussi le partage du dharma. Alors ça peut être sous la forme d'un enseignement, mais ça peut être aussi en incarnant le dharma. Alors pourquoi la générosité, elle a cette place dans les trois piliers? En fait, quand on y réfléchit un peu, un des défis directs pour nous en tant qu'êtres humains, c'est qu'on passe beaucoup de temps à être préoccupé par notre petit jeu. Je me rappelle quand Joseph est venu en France pour enseigner pour l'anniversaire de Vimalakirti, il nous avait invité un moment à faire très attention dans notre journée le nombre de phrases qui comportaient le « je ». Et c'est assez incroyable de voir qu'on est très très préoccupé. Alors, je ne sais pas pour vous en retraite, mais ça va être pourtant dans un cadre qui est assez organisé. On n'a pas trop besoin normalement de penser, mais on va perdre pas mal de temps à organiser toute une stratégie peut-être de où c'est le meilleur endroit où je vais pouvoir aller marcher, ou dans quelle place je vais pouvoir être dans la file pour que ce soit confortable pour moi. Voilà, il y a plein de petites choses en fait. Et puis parfois quand ça ne concerne pas la retraite, c'est toutes ces idées à propos de ce que je pourrais dire à telle personne, ce que je vais pouvoir faire en sortant de retraite. Donc en fait, on perd beaucoup, beaucoup d'énergie à se préoccuper de notre bien-être. Alors, ce n'est pas complètement faux, mais ça peut créer beaucoup de souffrance. Et donc, quand on pratique la générosité, pour un moment, le souci qu'on a pour ce petit jeu, il est mis de côté pour prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est aussi un antidote direct à ce qu'on appelle le premier poison qui est le désir, que Charles a pu aborder aussi. Ce désir qui est tellement prenant dans notre société de consommation où voilà, la croyance qui est tellement forte est que pour être heureux, il faut avoir plus. Une façon d'y remédier, c'est de pratiquer la générosité parce qu'on sort de cette croyance et on se rend compte qu'on peut être satisfait avec ce qu'on a et puis on peut partager aussi avec les autres. Alors, il existe une liste des bénéfices traditionnels de la générosité. Moi, j'aime bien cette petite liste, je trouve ça très, très motivant. C'est des petits bonus qu'on peut mettre dans la tête quand on a un doute. Mais la première chose, c'est qu'on se sent bien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, dans un moment où vous êtes triste, ou vous n'avez pas trop le moral, franchement, de faire un acte de générosité, ça permet de changer radicalement en fait, l'humeur intérieure. Deuxième bénéfice, c'est qu'on sera aimé par de nombreuses personnes. Bon, jusqu'à preuve du contraire, quand quelqu'un est généreux avec nous, on ne le déteste pas. Il y a peut-être des exceptions, mais en tout cas, en général, on est bien aimé. Troisième bénéfice, on s'associe avec des gens nobles qui vont pouvoir partager avec nous leurs enseignements, parce que c'est des gens qui eux-mêmes pratiquent ça. Quatrième bénéfice, on va avoir une bonne réputation. Et dernier bénéfice, c'est on aura une bonne réincarnation. Alors ça, c'est vrai qu'on y croit ou on n'y croit pas. Une façon dont on peut y penser, quand on fait un acte de générosité et qu'on y repense ensuite, ça va recréer cette même joie. C'est une façon en fait de remettre en vie un acte du passé. Alors réellement, le cœur de la sagesse, le cœur du don, pardon, justement, c'est la sagesse. Et quand on la pratique, on renforce la sagesse. Alors, la sagesse, c'est un mot qui peut prendre beaucoup de choses. Une des formes de la sagesse, c'est de comprendre que nous sommes tous reliés. De comprendre que, ultimement, on ne pourra jamais être complètement heureux si à côté de nous, il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc, très naturellement, on va partager ce qu'on a pour pouvoir amener aussi un peu de soukha aux autres. Et quand on fait ça, ça renforce ce sens du lien. Une deuxième forme de sagesse, c'est de comprendre que rien n'est permanent. Et l'acte de donner, c'est de réaliser que ce qu'on a, un jour, disparaîtra ou ne nous appartiendra plus. Alors il est beaucoup plus facile d'être dans le don. Ça nous permet de comprendre l'impermanence et de renforcer cette compréhension. Alors quand on entend ça, parfois, on pourrait se dire « Oh là là, moi je ne dois pas être très bon, c'est pas naturel. » Et en fait, il faut comprendre que ce n'est pas une pratique qui est facile, en fait. Parce qu'il y a un attachement, et parfois quand on est face justement à cette réticence de donner, il peut y avoir une pratique de sati qui permet de discerner la cause de pourquoi on a du mal à faire cet acte de générosité. Peut-être il y a de la peur, peut-être il y a de l'attachement. Et puis aussi parfois, il est judicieux de ne pas donner. L'idée, ce n'est pas de se retrouver ruiné, de se dire après avoir donné, ben, en fait, j'aurais pas dû ou j'ai plus assez pour moi. Le don, il se fait aussi avec une certaine sagesse de donner avec la main ouverte et ensuite d'avoir suffisamment. Et en fait, cette semaine, ou ces deux semaines pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ben on pratique beaucoup d'ana. Peut-être on ne s'en rend pas compte, mais on pratique énormément le don. Alors déjà, ben oui, vous faites votre tâche méditative. Et moi, ça m'a toujours beaucoup touchée de voir le soin que prennent les gens dans leur tâche. Quelle que soit la tâche, que ce soit la coupe de légumes ou le nettoyage des toilettes. Il y a un vrai soin qui est donné. Et moi, ce matin, j'ai souri parce que quelqu'un fait le ménage dans l'espace des enseignants. Et quand je suis allée aux toilettes, le papier était replié en angle, un peu comme dans les hôtels. Et là, je me suis sentie, j'étais plus Marelle, j'étais Palace Marelle, 5 étoiles. J'ai trouvé ça très touchant. Donc, merci à la personne qui a fait la tâche. Après, ça ne veut pas dire que demain, vous devez faire tous les plis sur toutes les toilettes. Puis, on s'offre aussi le silence. Et ça, c'est un cadeau qui est incroyable. Moi, je sais que dans mes amis, si je leur disais de venir en méditation en silence, il y en a beaucoup qui commenceraient à parler au bout de, je ne sais pas, 30 minutes, une heure, peut-être. Mais là, on s'offre vraiment un beau cadeau de maintenir ce silence, qui est vraiment rare. On soutient aussi à travers notre pratique d'être là ensemble, à venir s'asseoir, à faire les marches méditatives. C'est vrai que cette semaine, il a fait chaud. Et on aurait pu peut-être aller se baigner au lieu d'aller faire une marche méditative. Puis imaginez que la moitié de la salle, elle soit dans la piscine. Je pense que l'autre moitié, elle ne mettrait pas longtemps à y aller aussi. Enfin bon, elle n'est pas assez grande, je pense, pour nous avoir tous dedans, mais... Donc on se soutient quoi, par notre pratique, et ça c'est essentiel, c'est un très beau cadeau qu'on se fait aussi. Donc sans s'en rendre compte, en fait on s'entraîne déjà ici à Dana. Donc ce premier pilier de la générosité. Second pilier, sila, l'éthique ou moralité. Et là, je sens qu'il y a un gros silence qui se crée, qui est encore plus profond que le silence actuel. C'est en général quelque chose qu'on n'aime pas forcément entendre comme thème. D'ailleurs, Catherine, qui est une amie de la Sangha, qui enseigne au centre, cette année, a enseigné un soir sur Sila. Et elle a commencé en donnant une petite anecdote que je vais partager avec vous, parce que je la trouve super. Elle avait, en fait, la veille de l'enseignement, rencontré un vieil ami. Et elle lui expliquait qu'elle enseignait la méditation et que le lendemain, elle allait au centre Vimalakirti faire un enseignement sur l'éthique. Et son ami lui a répondu « Ouais, bah, c'est sympa, mais ça ne me donne pas trop envie de venir t'écouter. » L'éthique pour nous, la moralité, elle est très connotée. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas de pécheur, pas de péché. Ces principes éthiques, ils sont là pour nous aider à nous libérer de la souffrance. C'est vraiment des lignes de vie qu'on peut pratiquer pour amener plus de joie, plus de liberté dans nos vies. Pas pour nous réprimer, pour être quelqu'un qui n'est pas bon si on n'y arrive pas. Mais vraiment, J'ai entendu une fois un enseignant qui disait que l'éthique bouddhique, c'est une éthique de la joie. Et ça, je trouve ça génial. En fait, c'est très amusant de pratiquer les principes éthiques parce qu'il y a vraiment une façon, en fait, de les raffiner. Il y a un principe, souvent, qui est formulé de façon négative, mais on va pouvoir le travailler de plus en plus subtilement et même trouver sa forme positive. Alors, j'espère pouvoir vous donner, pardon, le goût de pratiquer ça. Et le premier précepte, c'est ne pas tuer. Alors là, vous vous dites clairement, ben ça c'est bon, je coche, j'ai tué personne. Alors derrière ne pas tuer, c'est vraiment plus l'idée de la non-violence et ne pas tuer tous les êtres vivants. Et ça va inclure comme cette petite mouche qui m'embête. Et de voir en fait la résonance d'un acte, par exemple, de tuer un insecte. Alors, par exemple, cette mouche ou un moustique, imaginons, quelque chose de très désagréable. Et quand on tue un animal comme ça, un insecte comme ça, le résidu qui reste au moment après l'avoir fait, en général, c'est « Ah, je l'ai eu ! Super ! Trop bien !» Un truc un peu, une sorte de fierté, voire un peu « On a tué une grosse bête, c'est génial, on a tué un insecte. » Alors que si on compare ça au fait de trouver un petit oiseau blessé et d'en prendre soin, le résidu qui reste de prendre soin d'un animal, c'est un résidu d'amour et d'ouverture. Donc finalement, un acte anodin de tuer un petit insecte qui nous embête, il y a quand même un petit résidu quand on y pense. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant peut-être de s'entraîner à ça, de voir... Quand je fais cet acte-là, qu'est-ce qui reste en fait ? Donc vraiment s'appliquer à ne pas tuer, mais aussi son versant positif, c'est de protéger la vie. Alors là, vous voyez que ça rejoint un peu Dana, la générosité, puisque une des formes de don, il y avait la protection. Donc on va prendre soin de protéger la vie, protéger le vivant. Une façon aussi de comprendre de ne pas tuer, c'est aussi de voir notre respect par rapport à la nature. Alors c'est sûr qu'au temps du Bouddha, il n'y avait pas de crise écologique, à peu près sûre. Donc il n'y avait pas vraiment cette idée d'écologisme, comme on peut voir aujourd'hui dans certains enseignements ou enseignants bouddhistes. Mais par contre, les préceptes, ils s'appliquent bien dans cette idée-là. Et on peut tout à fait voir le fait de ne pas tuer ou de protéger le vivant comme aussi cette façon de prendre soin de la nature. Le deuxième précepte, c'est ne pas voler. Alors ça aussi, on peut se dire, c'est bon, je coche. A priori, il n'y a pas de cambrioleur, cambrioleuse professionnelle. Alors, il y a une autre façon de l'entendre et de le traduire, c'est de ne pas prendre ce qui n'a pas été offert. Et donc là, ça peut devenir un tout petit peu plus compliqué. Parfois, c'est des choses un peu simples, comme on va au supermarché, la caissière passe les articles et on se rend compte qu'elle n'a pas passé un de nos articles, ou on a oublié de lui présenter les bouteilles d'eau. Et puis là, il y a une question qui se dit, soit c'est bonus, elle ne m'a pas vu, je repars. Ou alors, on peut se poser aussi la question que cette caissière va peut-être avoir des soucis si, en fait, on ne lui dit pas que ce n'est pas passé. Alors, c'est un petit exemple, mais c'est une question qu'on peut se poser dans nos quotidiens, dans des choses comme ça, mais aussi dans la parole, quand on est en échange avec quelqu'un. Est-ce que je parle trop de moi ? Est-ce que je laisse suffisamment de temps à la personne pour aussi partager ce qu'elle a besoin de me partager ? Ou est-ce que j'occupe tout le temps avec mon mélodrame personnel ? Ça aussi, c'est une façon aussi de voler quelque part, de prendre du temps de l'autre personne. Et ça, on l'a bien pratiqué dans la retraite, puisque en fait, dans la retraite, Il y a vraiment cette confiance en fait qui s'installe et de savoir que ben on n'a pas besoin de fermer notre porte à clé. Et ça, je trouve ça assez formidable aujourd'hui de se dire ben je peux être dans un endroit, je peux laisser mon sac à main, ma porte est ouverte et j'ai aucun souci à me faire. Et ça serait assez génial en fait de pouvoir vivre comme ça chez nous. Alors j'ai des amis qui habitent à la campagne, ils m'ont dit que chez eux c'est comme ça, ils ferment jamais la porte à clé. Chez moi, avant de partir, il y avait un gros panneau lumineux qui disait « Vigilance accrue, cambriolage en recrudescence ». Je me suis dit « mince alors ». Donc nous, ce qu'on pratique ici, ben, finalement, c'est un peu l'idéal qu'on pourrait avoir dans le monde, en fait. Une autre façon de raffiner encore, de ne pas voler, c'est de prendre ce qui est nécessaire. Et à nouveau, dans cette société de consommation, ben, là, on peut travailler dessus, de se dire, ben, est-ce que j'ai besoin de cette 30e paire de chaussures ? Moi, c'est plutôt la 40e paire de boucles d'oreilles, pour ceux qui me connaissent. Mais dans notre façon de consommer, est-ce que vraiment on prend que ce qui est nécessaire ? Et ça aussi, ça va impliquer un certain respect par rapport à la nature et à l'environnement. De prendre soin, en fait, de ne pas trop consommer pour les générations futures. La forme positive de pratiquer ne pas voler, ben ça va revenir à la générosité, c'est pouvoir offrir, pouvoir être généreux. Troisième précepte, ne pas blesser avec la parole. Alors celui-là, il est vraiment super. Je l'aime beaucoup. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Alors dans l'éthique, il existe plusieurs listes. Il y en a une de 10. Et ce soir, je vous ai fait le cadeau de vous donner celle en 5. Mais dans celle de 10, il y en a 4 qui concernent quand même la parole. C'est pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important. Je crois que c'est quelque chose déjà d'important parce qu'on passe beaucoup de temps à parler. Et ça, on s'en rend bien compte hein, quand on passe une semaine en silence, que en fait, beaucoup de notre temps est passé dans l'échange verbal. Et je ne sais pas vous, mais moi, il y a des mots qui m'ont été dits il y a des années en arrière. Des mots qui étaient vraiment gentils et encourageants, que je porte encore dans mon cœur. Puis il y en a d'autres qui ont été pour moi très blessants et qui parfois reviennent à mon esprit. Je pense que la personne qui les a dites, elle les a complètement oubliées, mais moi, ça peut m'arriver d'y repenser. Donc on peut voir comme la parole, elle peut être à la fois très bénéfique, comme elle peut être aussi très blessante. Je crois que nos grands-mères, elles n'avaient pas trop tort quand elles nous disaient « Tourne la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. » Il y a une sorte de sagesse dans ces vieux dictons, je crois. Donc la parole, comment ne pas blesser avec la parole ? Bien là, il y a différentes petites choses sur lesquelles on peut travailler. C'est de ne pas mentir. Donc dire la vérité, et ça c'est aussi une pratique qui n'est pas toujours évidente. S'abstenir de paroles médisantes, donc ne pas critiquer. Et en fait quand on pratique vraiment ce précepte, qu'on y fait un peu attention, en fait on dérape assez rapidement. On se retrouve dans une conversation avec quelqu'un à dire « Ouais, t'as vu celle-là en fait, tu te rappelles ?» En fait, oups. Critique. S'abstenir aussi de paroles dures ou blessantes. Et une qui est pas mal non plus, c'est s'abstenir de paroles futiles. Ça aussi, celle-là, elle vient assez facilement. Quand on est avec quelqu'un, en fait, rapidement, pour meubler peut-être le silence, on va raconter un petit commérage, une petite histoire qui fait du bien, mais qui n'est pas forcément très utile. On peut aussi rajouter peut-être aussi de dire les choses au bon moment. Et ça, c'est pas évident. Ça demande pas mal de pratique et pas mal de présence pour savoir quand dire justement cette vérité, pour ne pas blesser la personne. Donc elle est vraiment pas évidente, cette pratique de la parole juste. précepte suivant, c'est s'abstenir de mauvaises conduites sexuelles. Et là, pour le temps de retraite, on est bon, on a coché le truc, puisqu'on est en abstinence. Alors, dans le cas où on n'est pas laïque, eh ben, quand on sort, c'est un peu plus compliqué. J'ai écouté une fois un enseignement de Jack Kornfield qui disait sur cette énergie sexuelle à quel point elle est puissante. C'est l'énergie qui permet la vie. Il disait aussi, peu de choses dans la vie nous donnent un tel samadhi naturel, un moment d'absorption complet où le moi disparaît. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai quand même. Donc, c'est pas si évident de pratiquer ça. Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien qui avait créé la communauté des pruniers, il décrit ça assez bien, en fait, comment le pratiquer. Parce qu'il accueillait aussi beaucoup de familles, donc je pense qu'il a beaucoup réfléchi sur ce précepte. Alors, il dit « Conscient de la souffrance causée par une inconduite sexuelle, je m'engage à développer la responsabilité et à apprendre à protéger la sécurité et l'intégrité des individus, des couples, des familles et de la société. » Donc là, c'est pas seulement deux personnes, en fait. Quand on pratique ce précepte, il faut prendre en compte aussi des personnes qui peuvent être impactées autrement que nous-mêmes. Et ce qu'on apprend à faire, en fait, aussi en retraite de méditation, c'est pas supprimer quand ça vient, pas non plus agir par rapport à ces idées qui viennent, mais être avec et voir aussi que ça peut être impermanent. C'est un précepte qui peut se raffiner aussi, d'être de plus en plus sensible aux pensées qui nous viennent, même avant d'agir, les pensées qui nous viennent. Alors moi, il m'est arrivé une petite histoire qui est assez drôle. Il y a des années en arrière, j'avais fait le choix d'être célibataire pour traverser le monde et pouvoir faire des retraites, suivre des enseignants. Et j'en ai vraiment bien profité jusqu'à un jour où je me suis dit « Ah, j'aimerais bien en fait partager ça avec un partenaire spirituel. » Alors à l'époque, je suivais un maître tibétain. Je suis allée le voir. Je lui ai dit « Geshe-la, comment faire pour avoir un partenaire spirituel ?» Il m'a répondu « Tu prends le vœu de 6 mois d'abstinence. » Alors, quand je parlais anglais avec lui, je me suis dit peut-être qu'il ne m'avait pas très bien compris. Et puis, il a continué, il m'a dit, dans ces 6 mois, tu vas t'entraîner, à chaque fois que tu rencontres un être humain, à le voir comme ton frère ou ta sœur. Je me suis vite rendu compte que, souvent, quand je rencontrais un homme, c'était mon futur mari, le père de mes enfants. Et donc, j'ai pas mal bossé sur ça. Donc, ouais, parfois, on se rend même pas compte. Tout d'un coup, on rencontre quelqu'un et il y a « waouh ». Et en fait, ce « waouh », c'est déjà, en fait, ça se trouve, la personne est déjà en couple avec quelqu'un. Ça se trouve, voilà. C'est un entraînement de raffiner ce précepte aussi. Le dernier précepte, c'est ne pas utiliser de drogue et d'intoxicants. Donc ça aussi, a priori dans la retraite, personne n'a utilisé ça. Alors dans la vie quotidienne, comment ça peut se traduire ? C'est sûr que parfois ça nous arrive de prendre un petit verre de vin ou deux, ou vous pouvez changer de vin par la bière ou un autre truc que vous aimez boire. Mais ce qu'on peut réaliser, c'est que sous l'action de l'alcool ou d'intoxicants, en fait, notre esprit n'est pas aussi clair. Il se peut qu'on dise des choses qui blessent quelqu'un ou des choses qu'on regrette ensuite. Un peu ce truc de l'adolescent qui revient de la soirée et qui dit « Oh là là, tu te rappelles, qu'est-ce que j'ai fait hier soir ?» Alors, on n'est pas obligé d'arriver à ce point. Mais c'est vrai que quand on boit ou quand on prend quelque chose qui va altérer nos sens, eh bien, notre capacité à choisir ce qu'on veut dire et comment on le dit, elle est un peu altérée. Alors, tous ces préceptes, ils sont intéressants parce que bah, ça nous fait travailler aussi l'attention, ça nous permet de voir où on en est un peu dans ces préceptes. Je pense qu'ils ne suffisent pas eux-mêmes. Je crois qu'il y a vraiment une façon de se dire, en fait, de comprendre que tout ce qui va créer de la souffrance, en fait, c'est quelque chose qui ne va pas être bénéfique, en fait. Donc quand on a un doute, si ce n'est pas dans une liste de 5, de 10, de 15 ou de 20, on peut juste se dire que, est-ce que ça va être quelque chose qui va créer de la souffrance? Ça va être quelque chose de bénéfique. Le dernier pilier qui est Bhavana, dont Patricia avait parlé l'autre soir. Et c'est vrai que c'est souvent traduit par la méditation. Et comme Patricia avait pu le souligner, ben la traduction du pali, c'est vraiment de cultiver, une façon comme on peut cultiver la terre de façon simple les choses. Donc quand on parle de bhavana, on parle de la façon dont on prend soin de notre attitude méditative, pas seulement sur le coussin ou dans la marche méditative, mais dans chaque instant. Et c'est vraiment ça que je pense à un certain moment dans la retraite est intéressant de raffiner. D'essayer de garder cette continuité. Pas, ok, l'assise est terminée, paf, le gong. Ok, c'est quoi le truc? Et puis, ah tiens, marche méditative, on marche complètement absent, puis on arrive dans la marche. Ah tiens, ça sonne, tac, hop, c'est l'heure, c'est quoi le programme? Et en fait, de prendre soin parce que en fait, ce qu'on a établi là pendant ces quelques jours, c'est les conditions parfaites du dharma. Il y a vraiment la présence de ces piliers qui sont là. Et maintenant, on peut vraiment prendre soin de tous ces moments de transition, de ces moments d'actes du quotidien aussi. De prendre soin de cette attitude méditative. Je crois que tout ce qui était vraiment important dans le détail de Bhavana a été vraiment souligné par Charles et Patricia cette semaine. Comment on pouvait développer Sati. Et il nous reste un jour à la fois court et à la fois très long. Et c'est vraiment l'opportunité de mettre en pratique, de continuer. Voilà, tout ce qu'on a pu établir à travers le soutien de chacun, chacune, d'en prendre soin pour ce dernier jour et de vraiment réaliser le trésor qu'on a reçu de rencontrer le Dharma. En tout cas, moi, dans cette époque où j'étais célibataire, où je faisais énormément j'avais la possibilité de faire beaucoup de retraites, je ne me rappelle plus trop si j'avais vraiment conscience de l'opportunité d'être en retraite. Et aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui est encore assez jeune et pour moi, venir en retraite, c'est compliqué. Je crois comme beaucoup d'entre vous, hein, quand on travaille, il faut poser des jours au boulot, donc on choisit entre aller aux Bahamas ou dans une plage plus locale ou venir en retraite. Donc il y a aussi vraiment cet effort qui fait qu'on réalise, en tout cas pour ma part, moi maintenant quand je vais en retraite, il y a une sorte de joie profonde, parce que je sais que c'est très précieux, je ne peux pas y aller autant que je pouvais avant. Et je réalise à quel point, en fait, ces moments de retraite, c'est des trésors qu'on s'offre. Et donc d'en prendre soin. Et je vais terminer par la lecture d'un texte de Thich Nhat Hanh qui s'appelle « Notre véritable héritage ». Le cosmos est plein de précieux trésors. Je veux t'en offrir une poignée ce matin. Chaque moment que tu vis est un joyau qui resplendit et qui contient la terre et le ciel, l'eau et les nuages. Tu n'as qu'à respirer doucement pour que les miracles apparaissent. Alors tu entends l'oiseau chanter, les pins murmurer, et soudain, tu vois la fleur s'épanouir, les nuages blancs dans le ciel bleu, le sourire et le regard merveilleux de ton aimé. Toi, la personne la plus riche sur terre, tu erres depuis si longtemps. Ne sois plus cet enfant pauvre, reviens et reçois ton héritage. Savourons notre bonheur et offrons-le à chacun. Chérissons ce moment présent. Laissons partir le fleuve de nos détresses et choyons la vie présente au creux de nos mains. Je vous propose de terminer par un petit moment en silence pour laisser ces quelques mots résonner en nous.